Les infos à Washington.
Eric Manirakiza, il est 16h temps universel. 4 personnes ont été tuées, 5 autres enlevées par des membres du groupe islamiste Boko Haram au cours d'une embuscade sur une autoroute dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé aujourd'hui des membres d'un groupe local d'autodéfense. Plusieurs hommes armés ont ouvert le feu dimanche matin sur un bus et une voiture près du village de Nwajurko dans l'est de Borno, nord-est du pays, tuant 4 passagers et capturant des survivants qui tentaient de s'enfuir, selon des témoins. Et le président guinéen Alpha Condé a déclaré récemment à Niamey qu'il est prêt à engager la Guinée dans la lutte contre les islamistes nigériens de Boko Haram dès que le Niger le lui demandera. Mais à Conakry, cette initiative ne fait pas l'unanimité, nous dit notre correspondant sur place, Zakaria Kamara.
Boko Haram, une menace pour la sous-région, peut-on entendre dans les débats entre citoyens à Conakry. Mais à la question de la participation des troupes guinéennes contre la secte islamique, les réponses s'écartent l'une de l'autre.
C'est une question d'anticipation. Donc c'est une bonne chose d'en parler et puis de prendre aussi des mesures. Il ne s'agit pas d'en parler seulement, il faut prendre des mesures de sécurité.
C'est intéressant qu'ils puissent prendre position, mais pour moi c'est une erreur de communication. Boko Haram, c'est vrai, c'est une menace sous-régionale, mais il faut prendre aussi le problème sous un aspect géopolitique. Je pense que nous avons beaucoup plus de problèmes internes à régler que de se soucier de certains problèmes qui sont un tout petit peu loin de nous.
Conakry, Zakaria Kamara pour La Voix de l'Amérique.
En Égypte, 4 policiers ont été blessés, dont 2 grièvement dans l'explosion d'une bombe près d'un tribunal au Caire. Un attentat revendiqué par l'un des principaux groupes djihadistes du pays, Ajna Misr. Ce groupe djihadiste, particulièrement actif dans la capitale égyptienne, a revendiqué plusieurs attaques contre la police, dont certaines meurtrières. Et puis, cette casque bleu rwandais blessé au cours d'une fusillade au sein de leur contingent samedi à Bangui par un compagnon d'armes ont été transférés à Entebbe en Ouganda pour des raisons appropriées, a dit une source militaire. Un soldat du contingent rwandais de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, a été tué par balle samedi matin. 4 de ses frères d'armes et en a blessé 10 avant d'être abattu. La fusillade a eu lieu à l'état-major du bataillon rwandais de la MINUSCA dans le 5e arrondissement de la capitale, dans le quartier Sokatel Mpoko, près de l'aéroport. Et toujours en parlant du Rwanda, Emmanuel Karenzi Karake, le chef des services secrets rwandais, n'est plus poursuivi par la justice britannique. Un porte-parole du tribunal de Westminster Magistrates l'a déclaré aujourd'hui à Londres avoir abandonné la procédure d'extradition arrêtée à Londres à la demande de l'Espagne. Et le porte-parole a ajouté que les accusations spécifiées dans le mandat d'arrêt n'entraient pas dans le cadre des infractions couvertes par la procédure d'extradition britannique. Et au Burundi, une vaste opération de sécurité était en cours aujourd'hui à Jabé, dans un quartier de Bujumbura, la capitale burundaise, où d'intenses échanges de tirs ont retenti durant la nuit et où 2 policiers ont été blessés selon la police. Le quartier de Jabé, à environ 3 km au nord du centre-ville, était bouclé par la police qui lui interdisait l'accès lundi après-midi. Selon des habitants, de très nombreux policiers procédaient à des fouilles dans certaines maisons à la recherche d'armes. VOA Afrique a joint un habitant de la place. Et toujours au Burundi, des membres partisans de l'ancien chef des services secrets, Adolphe Nshimirimana, abattu dimanche dernier, ont défilé ce dimanche. Les précisions avec Christophe Nkurunziza.
Alors que plusieurs proches d'Adolphe Nshimirimana ont défilé hier en sa mémoire dans le quartier de Kamenge, la nuit dans la capitale était ponctuée par des tirs à l'arme automatique. La police part de 2 policiers blessés d'un véhicule incendié. C'est devenu une habitude d'entendre des tirs nourris à Bujumbura de l'ancien chef adjoint d'état-major de l'armée, proche du pouvoir de Bujumbura. Mais il est difficile de distinguer des tirs des habitants hostiles au 3e mandat de Pierre Nkurunziza de ceux des policiers. Ce lundi matin, les forces de l'ordre ordres fouillaient l'autre quartier contestataire de Jabé. Ces tirs ont été entendus 7 jours après l'assassinat à la roquette du numéro 2 du régime en deadline qu'avait donné le président Nkurunziza aux services habilités pour retrouver le commanditaire de l'assassinat d'Adolphe Nshimirimana. Dans un communiqué, le procureur général de la République a annoncé que les exécutants à la roquette ont été identifiés et d'autres arrêtés sans préciser leur identité. Mais le procureur a affirmé que les planificateurs du crime sont activement recherchés. Mais le communiqué lu à la radio et télévision nationale indique que le véhicule utilisé par les criminels est sorti le matin du crime dans le camp de Ngagara au nord de la capitale. Le procureur affirme également que le véhicule incendié et les tenues que portaient les assaillants ont été retrouvés dans les quartiers contestataires de Moussaga au sud de la capitale. Signalons que dimanche, les partisans ou proches d'Adolphe Nshimirimana, tous vêtus de noir, ont défilé en sa mémoire dans le quartier de Kamenge, au nord de la capitale où il a été assassiné. Notons également que le procureur général de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire après la tentative d'assassinat du plus grand défenseur des droits de l'homme au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, qui a été emmené en Belgique hier pour des soins. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
Je vous le disais donc, le quartier de Jabé, à environ 3 km au nord du centre-ville, était bouclé par la police qui en interdisait l'accès aujourd'hui. Depuis le matin, VOA Afrique a joint un habitant de la capitale.
Pendant la nuit vers 19h, on a entendu beaucoup de coups de feu et les gens se sont précipités de fuir vers leur maison. Les coups ont été entendus jusqu'à 1h du matin. Mais aujourd'hui, ce qui a beaucoup étonnant, c'est que c'est le matin à 6h, la fouille a commencé et personne n'a quitté le quartier vers un autre quartier. Donc, on a essayé de demander à certains policiers. Donc, ils nous ont dit qu'ils ont eu l'ordre de fouiller tout le quartier. Il n'y a pas de mandat de perquisition parce que la police vient en grand nombre. Ils entrent à 5 ou 6 jusqu'à 10 et les autres restent à l'extérieur de la maison. Mais vraiment, ils ne montrent pas les mandats de perquisition.
Est-ce qu'il y a eu des arrestations?
La police a malmené beaucoup de gens et surtout les jeunes. Quand ils rencontraient les jeunes en groupe de 3 à 4, donc ils leur demandent les pièces d'identité, ils regardent. Mais ce qui est étonnant, c'est que après avoir regardé les cartes d'identité, il y a certains policiers qui enlèvent les gens. Certains disent qu'ils les dirigent vers la documentation, les autres sur la police judiciaire. Donc on ne sait pas pourquoi on fait cela.
En RDC, retour progressif à la normale à Bukavu, chef-lieu du sud Kivu, après le séisme de la semaine dernière. Le point avec notre correspondant sur place, Ernest Muhiru.
Une attaque perpétrée par deux femmes et revendiquée par le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple. L'une des deux assaillantes a été arrêtée par la police. L'autre était toujours en fuite ce lundi. Ce parti, considéré par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne comme un groupe terroriste, avait commis en 2013 un attentat meurtrier contre l'ambassade américaine à Ankara. Autre incident à Istanbul, l'explosion d'un véhicule devant un commissariat du quartier de Sultanbeyli. Au moins 10 personnes, dont 3 policiers, ont été blessées. Des affrontements avec la police se sont poursuivis toute la nuit et 2 personnes présentées comme des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, ont été tuées. Ailleurs, en Turquie, au moins 4 policiers ont été tués par un engin explosif dans le sud-est du pays. Un attentat qui a eu lieu dans la province de Sirnak, frontalière de l'Irak et de la Syrie, et qui a été attribué, là également, au PKK. Les rebelles kurdes sont aussi accusés d'avoir tué un soldat toujours à Sirnak après avoir tiré sur un hélicoptère militaire.
Vous auriez donc entendu que c'était Jacques Aristide qui nous parlait de la Turquie qui a été secouée aujourd'hui par une série d'attaques, dont 2 à Istanbul visant le consulat des États-Unis à un poste de police, alors que le pouvoir turc intensifie sa campagne contre les rebelles kurdes accusés d'être responsables d'un attentat dans le sud. Et dans le reste du monde, toujours, le président ukrainien Petro Porochenko a demandé ce lundi des consultations d'urgence avec Paris, Berlin et Moscou concernant l'escalade dangereuse des violences dans l'Est séparatiste et pro-russe après des combats féroces impliquant des chars et de l'artillerie déclenchés selon Kiev par les rebelles. 4 personnes, 3 civils et un soldat ukrainien ont ainsi péri au cours des dernières 24 heures, selon des bilans séparés annoncés par l'armée et les autorités séparatistes. Dans la page économique, Wall Street a ouvert en hausse aujourd'hui, rebondissant sur sa baisse de la semaine précédente face à des éléments contrastés venus d'Europe et de Chine. Le Dow Jones prenait 0,34% et le Nasdaq 0,76%. C'est ici que je vais en finale à ce journal. Le prochain dans 50 minutes, je reste à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.